Messire Pierre de Machaut, seigneur de Montargis, était un homme qui ne pardonnait jamais les injures, même aux morts. Le trépas de ses ennemis ne suffisait pas à apaiser ses ressentiments. Son père, pourvu d'un haut emploi au temps du roi de fer, en avait été destitué par Enguerrand de Marigny, et la fortune de la famille en avait gravement souffert. La chute du tout-puissant Enguerrand avait été pour Pierre de Machaut une revanche personnelle. Le grand jour de sa vie restait celui où, comme écuyer du roi Louis Hutin, il avait conduit Monseigneur de Marigny au gibet. Conduit, c'était manière de dire, accompagné plutôt, et pas au premier rang, mais parmi nombre de dignitaires plus importants que lui. Toutefois, les années passant, ces seigneurs, l'un après l'autre, étaient décédés, ce qui permettait à messire Pierre de Machaut, chaque fois qu'il racontait ce trajet mémorable, de s'avancer d'une place dans la hiérarchie du cortège. D'abord, il s'était contenté d'avoir défié des yeux messire Enguerrand, debout sur sa charrette, et de lui avoir bien prouvé par son visage que quiconque nuisait au Machaut, si élevé fut-il, bientôt en recueillait malheur. Ensuite, le souvenir embellissant les choses, il assurait que Marigny, pendant cette ultime promenade, non seulement l'avait reconnu, mais encore s'était adressé à lui, en disant tristement « Ah, c'est vous, Machaut, vous triomphez à présent, je vous ai nui. Je m'en repens. » Aujourd'hui, après 14 ans écoulés, il semblait qu'Enguerrand de Marigny, allant à son supplice, n'ait eu de parole que pour Pierre de Machaut, et de la prison jusqu'à Montfaucon ne lui eût rien scellé de l'état de sa conscience. Petit, les sourcils gris joints au-dessus du nez, la jambe raidie par une mauvaise chute en tournoi, Pierre de Machaut continuait de faire soigneusement graisser des cuirasses qu'il n'endosserait plus jamais. Il était vaniteux autant que rancunier, et Robert d'Artois le savait bien, qui avait pris la peine d'aller le visiter deux fois pour qu'il lui parlât justement de cette fameuse chevauchée auprès de la charrette de messire Enguerrand. « Eh bien, comptez donc tout cela aux commissaires du roi qui viendront vous demander témoignage sur mon affaire !» avait dit Robert. « Les avis d'un homme aussi preux que vous l'êtes sont choses d'importance. Vous éclairerez le roi et vous acquerrez grande gratitude de sa part comme de la mienne. Vous a-t-on jamais pensionné pour les services que votre père et vous-même rendit au royaume ?
Jamais ! Quelle injustice !
Alors que tant d'intrigants, de bourgeois, de parvenus s'étaient fait mettre pendant les derniers règnes sur la liste des dons de la cour, comment avait-on pu oublier un homme d'aussi grande vertu que messire de Machaut ? Oubli volontaire à n'en pas douter, et inspiré par la comtesse Mao, qui avait toujours eu partie liée avec Enguerrand de Marigny. Robert d'Artois veillerait personnellement à ce que cette iniquité fût réparée. Si bien que lorsque le chevalier de Villebrême, toujours flanqué du notaire Tesson, se présenta chez l'ancien écuyer, celui-ci ne mit pas moins de zèle à répondre aux questions que le commissaire allait poser. L'interrogatoire eut lieu dans un jardin voisin, comme c'était l'usage de justice. Les dépositions devant être faites en lieu ouvert et à l'air libre. À entendre Pierre de Machaut, on eût cru que l'exécution de Marigny s'était passée l'avant-veille.
« Ainsi, disait Villebrême, vous étiez messire devant la charrette quand le sire Enguerrand en fut descendu auprès du gibet.
« Je suis monté dans la charrette, répondit Machaut.
Et d'ordre du roi Louis X, je demandais au condamné de quelle faute de gouvernement il voulait s'accuser avant de comparaître devant Dieu. »
En réalité, c'était Thomas de Marfontaine qui avait été chargé de cet office. Mais Thomas de Marfontaine était mort depuis longtemps.
Et Marigny continua de se donner pour innocent de toutes les fautes qui lui avaient été reprochées pendant son procès. Il reconnut néanmoins, ce sont ses propres paroles, où l'on retrouve bien sa fourberie, avoir pour des causes justes accompli des actions injustes. Alors je lui demandais quelles étaient ces actions, et il m'en cita plusieurs, comme d'avoir destitué mon père, le sire de Montargis, et aussi d'avoir soustrait aux registres royaux le traité de mariage du feu comte d'Artois, afin de servir l'intérêt de Madame Mao et de ses filles, les brus du roi.
Ah, c'est donc lui qui fit accomplir ce retrait.
« Il s'en est accusé !» s'écria Villebrême. « Voilà qui est important. Notez, Tesson, notez !»
Le notaire n'avait pas besoin de cet encouragement et grattait son papier avec entrain. Le bon témoin que ce sire de Machaut.
« Et savez-vous, messire ?» demanda Tesson, prenant à son tour la parole. si le sire Enguerrand fut payé pour cette forfaiture ?»
Machaut eut une légère hésitation et ses sourcils gris se froncèrent. « Certes, il le fut, » répondit-il, « car je lui demandais encore s'il était vrai qu'il eût reçu, comme on le disait, 40 000 livres de Madame Mao pour lui faire gagner son procès devant le roi. » Et Enguerrand baissa la tête en signe d'assentiment et de grande honte, et il me répondit « Messire de Machaut, priez Dieu pour moi !» Ce qui était bien un aveu. Et Pierre de Machaut croisa les bras d'un air de mépris triomphant.
« À présent, tout est bien clair !» dit Wilbrahm avec satisfaction.
Le notaire transcrivait les derniers points de la déposition.
« Avez-vous entendu déjà beaucoup de témoins ?» demanda l'ancien écuyer.
« 14, messire, et il nous en reste le double à entendre, » fit Wilbrahm.
« Mais nous sommes 8 commissaires et 2 notaires à nous partager la besogne. »